Le podcast Séparation consciente, c'est un magnifique espace où on discute à cœur ouvert de tout ce qui a trait à la séparation familiale, à la coparentalité et à votre nouvelle vie de famille, de l'aspect légal à l'aspect émotionnel.
Notre intention avec le podcast, c'est de transformer le visage de la séparation familiale. Une conversation à la fois pour que plus de gens, petits et grands, soient impactés de façon favorable par ce grand changement.
On est deux collègues et amis qui ont décidé d'unir leur vision et leur expertise pour les mettre au service de cette transformation.
Parce qu'on est convaincus que ça peut se faire dans le respect des valeurs de chacun, dans l'indulgence et dans la bienveillance.
Mon nom est Caroline Prudhomme, je suis coach en relations conscientes. Mon intention est de vous aider à naviguer la dimension émotionnelle de la séparation qui est trop souvent mise de côté.
Et je suis Mylène Mas, avocate, médiatrice et coach en développement intégral. Mon intention est de remettre l'humain au centre du processus de séparation. À travers des discussions et des partages, on souhaite vous offrir des pistes de réflexion, des outils aussi, pour vous accompagner sur le chemin parfois tumultueux de la séparation familiale.
Parce que ce qui laisse des traces, c'est pas la séparation en soi, mais la façon dont nous, les adultes, on la gère. Et que ce dont nos enfants ont le plus besoin, c'est pas d'une famille théoriquement parfaite, mais de deux parents heureux et épanouis. Bienvenue dans notre monde, où la séparation n'est pas une fin en soi, mais plutôt une puissante opportunité d'évolution personnelle. Êtes-vous prêt à la saisir? Salut! Re-bienvenue sur Séparation consciente. On est contente de vous retrouver. Salut Mylène!
Bonjour Caroline! Oui, très contente de vous retrouver pour une autre belle discussion divertissante, mais surtout qu'on espère être utile.
Oui, tout à fait. Comment ça va aujourd'hui?
Ça va bien, c'est la tempête, donc il y a une espèce de petite fébrilité. Je ne sais pas si c'est mon cœur d'enfant dans ces moments-là ou la personne qui aime beaucoup le cocooning qui sort, mais j'apprécie ces moments-là.
Oui, c'est vrai, moi aussi, comme de se créer une petite bulle de confort à la maison.
Oui.
Oui. Ouais, puis même d'aller jouer dehors, c'est le fun, c'est comme complètement différent des autres moments de l'hiver, tu sais, on dirait quand il y a autant de neige. Ouais.
Oui, je prévois vraiment aller faire une marche, là, tu sais, aller prendre une petite marche, une petite promenade là, dans cette température-là, ça va nous faire du bien.
Oui, puis c'est le fun, c'est comme tu dis, le cœur d'enfant, il ressort, tu sais, les enfants sont plus excités dans ce temps-là. Céleste, mon chien, qui est comme si elle était redevenue un petit chiot tantôt.
Ah,
fait que c'est cute, c'est comme ça fait ressortir le cœur d'enfant de tout le monde, en fait.
Oui, c'est même moi, le cœur d'enfant de mon ado, qui est pour faire changement de bonne humeur aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Les humeurs de l'adolescente. Oui. C'est un autre stade de... Je suis pas rendue là encore.
Ça vient vite. Fait que prends tout le temps qu'il faut pour apprécier ce qui est là en ce moment.
C'est clair, là, je regardais des vidéos d'eux quand ils étaient petites, quand Billy avait 1 an, puis Romy avait 3 ans, puis avec leur petite voix de bébé, puis tu sais, tellement cute, genre, ça n'a pas de bon sens. Puis on dirait que ça fait des millions d'années, mais en même temps, on dirait que je me souviens tellement encore de comment c'était, tu sais, comme si... Ouais. Fait que c'est un peu d'être dans la polarité des deux... espace-temps, on dirait, oui. Je ne sais pas comment le nommer, mais...
Ouais.
Ouais. Bon.
Ah, c'est bien.
Bon, mais sans plus parler de la vie familiale, aujourd'hui, on avait envie de faire un épisode pour discuter de qu'est-ce qui nous attend après la séparation, parce que je ne sais pas qu'est-ce que t'en dis, Mylène, mais moi, la façon dont je le vois, c'est que c'est comme n'importe quoi qui nous arrive dans la vie, tu sais, on pense qu'on sait qu'est-ce qu'il y a à faire ou qu'est-ce qui nous attend, mais dans le fond, pas tout à fait, tu sais, comme un peu comme quand on devient parent, tu sais, on se dit, tu sais, moi, je me vois là-dedans, là, quand... J'ai entendu ça sur un podcast en plus cette semaine, mais qu'au premier bébé, on se prépare beaucoup à l'accouchement, mais très peu au après. Puis je suis comme, ouais, c'était exactement ça. Tu sais, moi, j'avais tellement peur de l'accouchement que je me suis préparée à ça. Mais je me disais, après, ça va être correct, je vais avoir mon bébé dans mes bras, puis tout va être beau. Mais dans le fond, c'est là que le vrai travail, entre guillemets, commence. Là, tu sais,
t'as eu quelques surprises, hein?
Oui, beaucoup.
Je me doute. Oui, c'est ça. Je pense qu'on en a tous. Ouais, ça veut
mais
pas
je pense
dire...
que la séparation, c'est un peu le même principe. Tu sais.
Oui, mais ça veut pas dire qu'on en a pas de surprises, hein? Quand on a beau se préparer, puis essayer de voir vraiment tout ce qui s'en vient, notamment là, dans notre contexte là, de séparation.
Oui.
il y aura toujours quelques surprises. Ça fait partie des aléas de la vie. Ça fait partie de cette disposition à s'ajuster à des petits changements ou des modifications qui surviennent. Mais la réflexion, par contre, sur ce qu'on souhaite réellement, mettons dans ce contexte de séparation, elle est bonne, puis ça peut nous servir justement à se préparer puis à avoir une meilleure idée de ce qui nous attend.
Oui, hein? Puis j'aime ça que tu dises la réflexion parce que, tu sais, je pense qu'il faut que ça prenne une place dans notre réflexion avant même de prendre, tu sais, d'officialiser la décision ou d'en parler à l'autre personne. Je pense que ça fait partie des premiers petits pas qu'on peut faire, tu sais, d'avoir cette réflexion-là avec nous, en fait, pour savoir, bien, tu sais, comme tu dis, il va toujours avoir des surprises, mais de se dire, genre, moi, dans mon monde idéal, comment ça se passerait? Puis clairement, ça se passera pas comme dans notre monde idéal, mais au moins, ça nous donne une ligne directrice, tu sais, de vers quoi on a envie d'aller, puis de se questionner sur, sur nos valeurs.
Mais puis même si, comme tu le dis, ça ne répond pas nécessairement exactement à ce qu'on avait envisagé comme situation idéale, ça peut très bien servir, je trouve, cette réflexion-là, ce moment de réflexion, l'espace qu'on se donne, ça peut servir à atténuer des frustrations. Puis à pouvoir justement être dans une prédisposition de réflexion beaucoup, de beaucoup meilleure par rapport à être dans un état de rumination, puis tu sais, quand c'est très c'est une relation acrimonieuse avec l'autre, c'est difficile de réfléchir dans ce temps-là, hein? c'est plus pénible.
Oui, puis comme tu dis,
les décisions qu'on prend ne seront pas les meilleures, là.
Non, c'est ça que j'allais dire, en fait, c'est que si on prend les décisions d'un espace de blâme puis d'un cercle vicieux de reproches, en fait, ben tu sais, ça va peut-être même pas être des décisions qui vont être vraiment alignées avec nous, au bout du compte, quand on va avoir pu, quand on va avoir eu l'espace de prendre du recul, puis tout ça, puis que ces déclencheurs-là seront plus présents dans notre quotidien. Fait que c'est important de s'offrir cet espace-là au début, comme tu dis, puis d'aller voir, tu sais, d'être capable de prendre ce temps-là, mais pour être capable de prendre une décision qui est basée sur l'amour versus la peur ou la frustration. Tu sais, de se dire que puis ça fait partie de ce qu'on parlait dans le dernier épisode, tu sais, de faire une séparation consciente, c'est aussi d'être capable de prendre une décision qui est basée sur l'amour de soi, mais aussi l'amour de l'autre, puis l'amour de nos enfants, tu sais, de se dire comme que je suis plus la bonne personne pour toi présentement, puis je t'aime assez pour vouloir que tu sois heureux, tu sais, ou heureuse.
Mais j'entends beaucoup l'accompagnante en toi quand tu dis ça. Bien, en fait, c'est que dans le fond, quand tu parles de la réflexion puis pour t'amener vers des décisions qui sont vraiment plus dans la bienveillance, ben c'est quand même un processus intérieur qui peut être utile puis qui peut être facilitant quand tu es accompagné parce que, puis on pourra en parler un peu plus parce que j'aimerais ça t'entendre sur ce genre d'accompagnement-là. Puis je dis ça par opposition à mon point de vue à moi, qui est peut-être un petit peu plus dans le concret. Bien, pas dans le concret, non, je ne vais pas dire ça comme ça, mais tu sais, dans le pragmatique, où je me dis, bien, moi, la réflexion, c'était plus, bien, quand est-ce qu'on veut faire ça? Tu sais, quand est-ce que je vais avoir la discussion avec l'autre? Et puis, bien, comment je vais faire ça? Dans quel contexte? Puis, tu sais, l'annonce aux enfants. Puis, fait que, tu sais, il y a un élément concret, mais qui vient, dans le fond, après la réflexion que toi, tu sais, vers quoi tu te tournes, là, que toi, t'offres, dans le fond, que tu disais de le faire dans la bienveillance. En fait, on peut tout faire ça en même temps, là, mais ce que je veux dire...
C'est ça qui me venait, en plus, quand tu parles, c'est comme, il y a une réflexion, il y a un espace de réflexion au début à avoir avec soi-même pour pouvoir mettre les bases pour aller de l'avant, tu sais, de la façon qui est vraie pour nous. Puis avec laquelle on va se sentir bien aussi, tu sais, parce que c'est pas parce que c'est un événement perçu comme négatif, une séparation, que ça a besoin d'être un espace négatif et lourd et triste et tout ça. T'sais, forcément, il va y avoir des moments de tristesse, c'est un deuil, tu sais, en soi, là, il y a plein de petits deuils là-dedans, mais on n'a pas besoin de se sentir en permanence pas bien là-dedans, tu sais, parce que si on prend des décisions qui sont alignées avec notre vérité à nous, ben on est capable Puis tu sais, il faut tasser bien des affaires là, pour aller voir en dessous de ça, là, aller voir en dessous des programmations, puis être capable de voir vraiment qu'est-ce qui nous appartient à nous versus qu'est-ce qui appartient à notre famille ou à la société ou à l'autre parent ou peu importe, tu sais, mais de prendre un espace de cette décision-là, ça fait que ça va faciliter le processus au complet aussi, mais ça fait aussi, ça prend aussi une place dans tout le processus, tu sais, c'est un truc qu'on va sur lequel on va revenir tout au long, on va réajuster, il va y avoir des désalignements, on va réaligner, on peut faire ce processus-là avec l'autre parent aussi, un coup que la séparation est entamée, tu sais, pour voir qu'est-ce qu'on a envie de créer pour notre famille, pour la suite aussi, puis ça, je pense que c'est tellement un beau cadeau à s'offrir, là. Ce type d'accompagnement-là, tu sais, que ce soit avec un coach, justement, comme le type d'accompagnement que j'offre, ou avec un thérapeute, ou peu importe, là, t'as un autre type de thérapeute, mais le fait est que c'est une relation qui va être présente tout au long de notre vie, tu sais, fait que c'est important, je pense, de bien mettre les bases, tu sais, de communication, puis d'espace sécuritaire où on est capable d'être juste des parents, puis de discuter du bien-être de nos enfants, justement.
Bien là, ce que j'entends dans ce que tu dis, puis je le partage aussi, c'est que de mettre les bases dans ce que va être le nouveau lien parental ou bien la nouvelle définition de la famille, parce que ça demeure. Mais je te ramène quand même dans ce que tu disais un petit peu tantôt, où il y a une série de deuils hein, qui font partie de ce processus de réflexion-là. Puis je tiens à le dire parce que je lis souvent cette remarque en médiation où la personne, admettons, qui laisse l'autre est souvent vu comme le persécuteur, puis la personne qui a initié le processus, bien, c'est la personne qui, en principe, est bien, puis qui a passé à autre chose, alors que c'est pas tout à fait le cas. C'est pas parce que la personne laisse la famille, bien, en fait, ou l'autre conjoint, là, plutôt, ça ne délaisse pas la famille, là, mais décide de faire ce changement-là, que nécessairement, il n'y a pas de culpabilité qui va avec ça, qu'il n'y a pas une série de deuils à faire. C'est juste que peut-être que le processus a été amorcé un peu avant.
Oui, c'est ça.
Les deux parents sont peut-être, ou les deux personnes sont peut-être pas nécessairement au même endroit, au même moment. Mm-hmm. Mais ce qui m'amène, en fait, à dire que quand on fait un processus d'accompagnement, du coaching, ou encore qu'on décide d'aller en médiation, les deux partenaires là, pour le règlement de la situation ou de la rupture, ça veut, dans le fond, il faut se questionner aussi sur le timing qu'on va avoir les deux ensemble là, parce que ça peut être bien différent d'une personne à l'autre. Mais
Tout dépendant où tu es rendu dans ton processus de deuil de la relation amoureuse, t'sais. En fait, c'est que c'est ça. C'est pas de quitter la famille, en fait, c'est de... On met fin à une relation amoureuse, puis on oublie souvent ça. T'sais, on oublie ce deuil-là ou cet espace de... T'sais, c'est la fin de quelque chose quand même. Oui, c'est la transformation de notre famille. Puis c'est une belle opportunité, mais il faut aussi se laisser l'espace de vivre les émotions reliées à la fin de la relation amoureuse. T'sais, parce que... Ça, c'est un autre deuil. T'sais, souvent, quand on a des enfants, en tout cas, ce que je vois, moi, de autant qui c'est ben, de mon expérience personnelle, mais aussi dans ma pratique, le fait qu'on va focusser sur tout ce qui a rapport avec la séparation puis les enfants, justement, tu sais. Puis c'est un peu de ce qu'on va parler ensuite aussi, mais tu sais, de se dire comme... Qu'est-ce qui m'attend dans le sens de, tu sais, qui va habiter où, qui va déménager, la garde des enfants, ça va avoir l'air de quoi, quand est-ce qu'on commence le processus de médiation, est-ce qu'il faut qu'on aille en cours, est-ce qu'il faut qu'on divorce, comment on se partage les biens, on voit tout ça, mais on oublie que on a aussi le deuil d'une relation amoureuse à faire, tu sais, fait que si on se laisse pas cet espace émotionnel-là, ça s'en va pas, là, ça va juste apparaître après, parce que là, on est comme en mode, genre, ben je sais pas si c'est la bonne façon de le nommer, mais comme en mode de survie ou comme revenir dans un état immédiat de sécurité, là, tu sais, avec tous les changements concrets qui vont se passer. Puis après ça, les émotions, ils ressortent, puis là, on est comme, fouf, je pensais que c'était parti, ça, mais finalement, non, c'était juste caché.
C'est ça, oui, c'était caché par tout ce que j'avais à faire, puis tout ce que j'entrevoyais, qui était une lourde tâche. Ouais. Mais je reviens encore sur quelque chose de, je pense, de très sage que tu as dit, puis qui n'est pas tout le temps facile à réaliser, c'est que dans le processus de séparation, il y a la séparation de... C'est qu'on dirait qu'on le voit peut-être erronément, puis parce que c'est, ça nous a été montré ou c'est illustré de cette façon-là depuis bien longtemps. C'est comme si on quittait la famille, tu sais, comme si on mettait une croix sur la famille quand on se sépare, alors que c'est pas ça. Dans le fond, la séparation, c'est la fin d'un couple.
Oui, mais ça, c'est la transformation d'une famille.
D'une famille, c'est ça. Oui. Puis c'est important de vraiment faire cette distinction-là parce que souvent les gens ont un grand sentiment de culpabilité puis peut-être même de la honte, un déséquilibre. Parce qu'ils se disent, ben, je viens briser la famille, ou bon, il ou elle a brisé ma famille. Mais c'est, dans le fond, c'est une façon de le voir, mais qui peut être très souffrante.
C'est ça.
Très douloureuse.
Oui, oui, exactement. Puis moi, je pense que, tu sais, j'aime mieux cette façon-là de le voir, là, le fait que c'est une transformation, que c'est pas du tout brisé, parce que la famille, elle s'en va nulle part, tu sais. Il y a rien de brisé, là, tu sais, en fait. Puis je pense que la façon dont je le vois, puis qui peut peut-être mieux imager, c'est que la séparation, c'est un cadeau mal emballé. Tu sais, en fait, ça a l'air tellement...
précise un peu, mais c'est...
Ben, ça a l'air tellement mal emballé. Ça a l'air tellement négatif, puis tout ça, quand dans le fond, c'est une merveilleuse opportunité de transformation puis d'évolution, pour notre famille que... tu sais, autant pour nos enfants que pour nous, que pour... Tu sais, nos enfants, ils veulent avoir des parents heureux. Nous, on veut être heureux. On veut que l'autre personne soit heureuse aussi. Fait que, tu sais, de s'enfermer dans une relation qui nous sert plus, ça sert pas à personne non plus. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est un cadeau mal emballé, parce que de prime abord, ça a pas l'air d'être un cadeau. Mais dans le fond, ça en est un, tu sais. Puis aussi, qu'est-ce qui me vient dans ce que tu disais, c'est aussi que... on pense que quand la séparation physique, elle est faite... le processus de séparation, il est terminé. Oui. Mais c'est pas le cas parce que souvent, c'est là où le processus de séparation émotionnelle va débuter, tu sais.
Oui. Et
que d'arrêter de se presser aussi, je pense que c'est véhiculé dans la société, tu sais. C'est fini, reviens-en, là, tu sais, un peu, ou comme, tu sais, vous êtes séparés, ça fait déjà 2 mois, là, reviens-en, c'est correct. Non, tu sais, ça se peut que ça te prenne 4 ans de passer à autre chose. Ça se peut que ça te prenne 2 mois, ça se peut que ça te prenne pas de temps du tout, ça se peut que ça te prenne 1 an. Tu sais, chaque personne est différente. Il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. Il y a juste une bonne réponse pour toi, puis il y a aussi une bonne réponse pour votre famille. Puis ça, ça fait beaucoup partie de ce qu'on va discuter aussi, tu sais, de se dire que peu importe les décisions qu'on va prendre dans cette séparation-là, puis dans le processus de médiation, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas une seule façon de faire, il n'y a pas de livre qui nous dit, genre, fais ça, puis tout va être correct, tu sais, ça se
passe. Bien, il y a autant de solutions qu'il y a de familles.
Exactement, oui.
Puis justement, comme je te pose la question, parce que c'est facile, les deux, on l'a vécu, fait qu'on peut partager nos expériences, mais tu sais, dans les premières réflexions, on parlait du fait de voir qu'est-ce qu'on veut, comment on souhaite que ça se déroule. Tu sais, peut-être se pencher là-dessus. On peut être accompagné dans ce cas-là, dans un coaching ou avec du soutien là, autour de nous. C'est important de peut-être pouvoir verbaliser un peu puis voir... aller vraiment vers ce qu'on aimerait, puis épurer ces décisions-là de toute frustration qui peut être dans le chemin, puis de rumination et tout ça.
Puis je pense quand tu dis aussi un espace où on est supporté, je pense que c'est important que ce soit, je veux juste mentionner ça, que ce soit un espace sans jugement, parce que ça me ramène beaucoup à ce que tu disais tantôt par rapport à la culpabilité de cette décision-là. Puis je pense que c'est très important parce que si c'est pas disponible pour nous dans notre entourage immédiat ou peu importe par le biais d'un thérapeute ou je sais pas, il y a différentes façons dont ça peut être fait, tu sais, mais si on n'a pas un système de support puis un espace où on peut discuter de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous sans jugement, ben nos décisions vont être biaisées. vont être teintées de ce jugement-là qu'on sent de l'extérieur, justement, en plus de la culpabilité que nous, on se met. Fait que là, on va peut-être en venir à prendre des décisions qui ne sont pas alignées avec notre vérité intérieure juste parce qu'on pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse, tu sais.
Oui. Puis quand tu dis le jugement, tu sais, c'est pas nécessairement que tu vas voir un ami, une amie, puis ils disent « Ah, ben tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça », ou la famille, tu sais, c'est pas nécessairement ça hein, que tu veux dire en termes de jugement. Tu sais, ça peut être tout simplement les gens qui te disent « Ah, ben moi, si j'étais toi, puis ah, ouais. dans mon temps, c'était comme si... » C'est teinté quand même de la, oui. la réalité de l'autre, puis c'est teinté de genre, ben moi, en tout cas, je ferais ça, c'est sûr, je me poserais pas de questions.
Comme je le sais mieux que toi, qu'est-ce que tu devrais faire, tu sais, mais ouais. souvent c'est inconscient ça, les gens ils le font ouais. pas avec l'intention de dire quoi faire, mais ouais, d'avoir cet espace-là où il n'y aura pas ça, tu sais, il n'y aura pas l'historique personnel de l'autre personne, où il n'y aura pas la charge émotionnelle aussi, qu'est-ce qui est bien en accompagnement, en coaching ou en thérapie ou... Peu importe le type d'accompagnement qui est le bon pour vous, c'est le fait que il n'y a pas de charge émotionnelle. T'sais, moi, peu importe la décision que tu prends, j'ai pas une charge émotionnelle qui est reliée à ça. Donc, je suis capable de te refléter juste ce que j'entends de toi parce que moi, j'ai pas de gain là-dedans ou de perte. T'sais, ça vient pas me. Ma seule intention, c'est de te soutenir dans la prise d'une décision qui est alignée avec toi. T'sais. Puis ça, souvent, c'est difficile à aller chercher avec nos amis ou avec notre famille parce que ce soit conscient ou inconscient, eux, ils en ont un gain ou une perte là-dedans. T'sais. Même s'ils ne savent pas, même si t'sais, ils font pas ça pour mal faire, là, c'est même pas ça. C'est juste que comme il y a un lien émotionnel, ben forcément, il va avoir un gain ou une perte. Fait que, tu sais, ça va toujours être teinté, là. Les réflexions vont toujours être teintées de ça. Là.
Oui, ben c'est sûr, parce qu'on a un historique aussi, en tant que peuple, d'aller plus vers la sympathie puis de rentrer dans le problème de l'autre plutôt que d'être vers l'empathie. Fait que ce qui me permet de dire, en fait, demeurer dans cette temps de réflexion-là puis dans la transition de votre famille qui représente la rupture, se donner la possibilité de voir qu'il peut y avoir des jugements, se donner la permission d'aller vers un bon support pour soi. C'est un beau cadeau qu'on s'offre. Demeurer à l'affût de ça, ça peut être vraiment pertinent dans la poursuite des choses dans cet espace-là.
Oui, puis ce qui me vient aussi en t'entendant avec ce que tu dis, c'est que se donner cet espace-là de transition, mais qui est le bon pour nous. Tu sais, c'est pas parce que ça fait un mois que la décision est prise que tu es obligé d'être déménagé demain matin, tu sais. C'est pas ça, la vérité. Peut-être que c'est pas ça qui est bon pour vous pour le moment, tu sais. Fait qu'arrêter de se dire que ça devrait être comme ça, puis genre de voir à l'intérieur de nous, de notre famille immédiate, les gens qui sont touchés immédiatement par cette séparation-là, donc l'autre parent avec les enfants, c'est quoi le rythme de notre famille? C'est quoi le type d'espace dont on a besoin? Tu sais, de respecter le rythme de tout le monde là-dedans aussi autant que possible, tu sais, parce que des fois, c'est pas possible, puis des fois, il y a plein de facteurs qui entrent en compte, là. Oui. Exactement, mais tu sais, comme je regarde, disons, je prends notre famille comme exemple, justement, à moi, le père des enfants, puis les deux filles. Tu sais, nous, on a pris la décision quand la plus jeune, elle était très jeune, elle avait 6 mois. Donc, pour nous, c'était pas le bon moment pour décider de déménager pour ça puis pour plein d'autres raisons, mais parce que ça faisait pas de sens dans notre tête que notre fille à 6 mois puisse pas voir son père à chaque jour, tu sais. Fait que ça l'a penché beaucoup dans la balance. On a continué, là, nous, tu sais, c'est peut-être un cas je dirais pas extrême, c'est pas le bon mot, là, mais en tout cas, tu sais, il y a plein de facteurs qui ont entré dans cette balance-là aussi, mais on a quand même continué à cohabiter pendant 2 ans, tu sais, puis là, 2 ans et demi pour une petite fille, ben c'est jeune pour faire des journées chez maman, des journées chez papa, mais finalement, ça s'est bien passé, tu sais, mais c'est ça qui était vrai pour notre famille à nous à ce moment-là. Fait que ça en vient à me dire aussi, à parler de, tu sais, quand on réfléchit au type de garde qu'on a envie d'avoir aussi pour les enfants, tu sais, qui va devenir une question dans le processus de médiation, mais qui est aussi, je pense, souvent une crainte par rapport à, tu sais, qu'est-ce qui m'attend, là, après ma séparation? Ça veut-tu dire que je ne verrai plus mes enfants une semaine sur deux? C'est tout ça que ça veut... Tu sais, là, le cœur de maman ou le cœur de papa, il est brisé, là, dans ce temps-là. Tu sais, on est un parent, là, peu importe qu'on soit un papa ou une maman.
Il y a tellement de choses à dire sur ça, mais sur tous les sujets, finalement, sur lesquels on doit se pencher quand on est dans ce processus-là. Mais dans le fond, c'est super pertinent ce que tu dis, parce que il y a souvent des grandes craintes ou peut-être des fausses croyances là aussi qu'on on se forme dans la façon ou dans ce moment de réflexion là où on se dit justement ben non seulement parce que je l'ai entendu à quelques reprises dans un contexte de médiation, puis c'est brise-cœur à chaque fois, même pour moi là, quand j'entends un des deux parents dire non seulement je me suis fait laisser, mais je me fais enlever mes enfants, une semaine sur deux, ou c'est vrai que ça peut sembler être comme ça, mais ce vers quoi je veux amener la discussion, la réflexion en ce moment, c'est tout est une question de perception aussi. Parce que, dans le fond, effectivement, quand on fait de la garde partagée ou de la garde exclusive, peu importe comment on le détermine entre parents, dépendamment des horaires et tout ça, il y a aussi une disposition ou un état d'esprit qui est bon d'amener en nous pour être un peu plus dans l'acceptation de la situation. C'est vraiment un processus, c'est une étape, en fait.
Oui, mais c'est un processus, puis comme tu dis, de changer sa perception. T'sais, oui, de prime abord, ça peut avoir l'air « je vais manquer la moitié de la vie de mes enfants ». Mais en fait, si on s'arrête à y penser pour de vrai, qu'est-ce que ça m'offre comme possibilité, comme opportunité? C'est que quand mes enfants sont là, ben je peux être 100% avec eux, parce que quand ils sont pas là, j'ai pris le temps de faire le ménage, j'ai pris le temps de faire l'épicerie, j'ai travaillé plus, j'ai pris du temps pour moi. Alors là, quand ils sont là, je me sens pas... Tu sais, mon cup à moi, il est rempli, fait que je suis capable de leur donner. T'sais, alors ça veut dire qu'ils ont le meilleur de leurs parents 100% du temps. Tandis que quand on est 100% du temps avec nos enfants, même si on est deux parents à la maison, c'est pas vrai que nos enfants, ils ont le meilleur de nous 100% du temps, tu sais. C'est pas possible, là, avec le quotidien, avec tout ça, le stress, en tout cas, tu sais, la vie moderne, là. Mais là, on peut se dire que peut-être pas 100% du temps, mais que en tout cas, la majorité du temps, nos enfants, quand on les voit pas à chaque jour, ben ils ont le meilleur de nous, tu sais.
Oui. Mais, alors, ce que je voulais dire par tout ça, c'est dans le contexte de réflexion, bien, on peut voir les différentes perspectives. C'est important de se donner la possibilité d'explorer tout ça, parce que c'est pas que du mauvais. Comme tu disais, tu sais, ça peut être une très belle opportunité de faire des changements, de prendre plus de temps pour soi, faire des changements aussi. Souvent, j'entends les gens dire ben c'est toujours moi qui ai pris la charge mentale de la famille, tu sais, du couple. Ben souvent, c'est des belles opportunités pour pouvoir aller plus vers la distribution des tâches, là, tu sais, les différentes opportunités pour aller changer certains comportements, puis pour transposer les responsabilités entre les parents, là, les distribuer différemment. Fait que c'est sûr que ça semble lourd quand même, là, tu sais, je nous entends, je regarde.
Non, mais puis je pense que ça laisse des opportunités aussi de, tu sais, des fois, dans certaines familles, puis là, je pèse mes mots, mais dans certaines familles, il y a des fois un parent qui est moins présent, disons, pour les enfants, pour X nombre de raisons, pour X raisons que ce soit.
Ben, les horaires de travail, le type d'emploi.
Exactement, il y a plein de raisons, mais je pense que quand on est en garde, en séparation. En fait, quand on est séparé, ben ça laisse plus d'espace à ce parent-là, tu sais. Dans un sens, il y a pas le choix d'être là, tu sais. Fait que je pense que ça le rapproche des enfants aussi. Puis je pense que ça fait... Tu sais, ça transforme la relation pour les enfants aussi. C'est le fun, tu sais. En fait, ça enrichit la relation qu'ils ont avec ce parent-là.
Dans tout ça... C'est important de se donner le temps d'arriver à ça.
Aussi, Caro. Oui, c'est vrai.
Parce que dans le fond, c'est pas toujours évident. En médiation, souvent, les gens arrivent rapidement dans le processus, là, plus ou moins rapidement. Là, ils viennent de
se séparer. Mais c'est-tu nécessaire, tu sais, de... Excuse, je t'interromps, mais genre, je me demande si justement de se laisser cet espace-là, c'est pas pertinent, puis qu'on va peut-être prendre des décisions plus alignées pour notre famille, puis le processus de médiation serait peut-être même facilité par tout ça, tu sais.
Oui, mais ça dépend vraiment des gens.
Ouais.
Il y en a qui ont la réflexion rapide, mm-hmm. si je peux dire ça comme ça. Ils sont tellement sur une longueur d'onde semblable que la prise de décision est facilitée, tu sais, par, par leur façon d'être et tout ça. Alors qu'il y en a qui, c'est beaucoup plus difficile, là. Ils ont l'impression qu'il y a quelque chose qui est arraché là, d'eux-mêmes, là, mm-hmm. ou encore il y a quelque chose qui va leur être... comme de domper sur les épaules, puis c'est très lourd à porter. Fait que ça dépend vraiment des moments, mais quand même, c'est sûr que dans un processus de médiation, c'est possible d'aller vers justement ce genre de réflexion-là, il vous est donné un petit peu, là, tu sais, mm-hmm. Cette information-là, en fait, pourrait alimenter le processus de réflexion, c'est là.
Ouais.
En même temps, ça dépend vraiment, c'est ce que j'allais dire là, juste avant, c'est que ça dépend où les gens sont rendus dans le processus, parce qu'ils peuvent arriver en médiation. Il y en a un qui a déjà sa réflexion est avancée. L'autre n'est pas tout à fait là, ça semble très difficile de faire les changements, ça semble insurmontable. Il faut se donner le temps mm-hmm. d'arriver à peu près dans un espace où on a soit déjà expérimenté certains trucs, expérimenté différents styles de garde. C'est pas tout le temps évident d'ajuster en tant que parent monoparental ses horaires et tout ça, même si d'un côté, comme tu le dis, on a du temps, puis en tant que parent, je veux dire en tant que personne, puis là, on peut être très, très, très disponible à nos enfants pendant le temps qu'on les a, mais ça, il faut se donner le temps de l'installer, ça.
Bien, il faut se donner le temps de l'installer, puis il faut se donner le temps de le percevoir de cette façon-là ou de l'apprécier, j'ai envie de dire. Parce qu'au début, c'est comme très difficile, il y a beaucoup de culpabilité là-dedans, tu sais, puis de se dire comme... Je fais quoi? Tu sais, surtout quand on s'identifie beaucoup à notre rôle de parent puis que ça prend la place centrale dans notre vie. Là, ça veut dire qu'il faut que tu redéfinisses tous les rôles de ta vie aussi. Là, il faut que tu te laisses ce temps-là.
Ça crée un vide. Ça peut créer un vide. En tout cas, je me rappelle de l'avoir vécu pendant un certain temps. Ce vide-là, là, tu es habitué à une charge, pas juste mentale, là, mais tu es habitué à... une charge de travail, tu sais, dans le fond, qui représente la famille, puis tout ça. Puis, du jour au lendemain, oups, t'es deux, trois jours où t'as vraiment tout le temps devant toi, puis on s'en parlait comme il n'y a pas si longtemps que ça, où quand on a ce temps-là devant nous, ah, ben là, soudainement, on se met plein de trucs à l'horaire, puis on finit par ne rien faire, ou presque pas tout. Donc, on ne peut pas passer à travers cette liste-là, fait que finalement, il y a un sentiment de culpabilité qui arrive, où en fait, il y a pas de culpabilité, mais d'espèce d'impuissance, puis ah, j'ai pas été capable, un manque de performance, alors que dans le fond, c'est juste un ajustement, là.
Puis, tu sais, qu'est-ce qui me vient aussi quand tu parles du vide, c'est aussi justement qu'il faut redéfinir tous ces rôles-là, parce que oui, c'est vrai que ça veut dire que quand les enfants sont pas là, mais pendant cette période-là, je suis pas activement une maman ou un papa, mettons, parce qu'on reste toujours une maman ou un papa, mais je suis pas activement dans ce rôle-là. Mais il y a aussi le fait que je ne suis plus l'amoureuse de X ou d'Y. Fait qu'il y a ce rôle-là aussi qu'il faut que je redéfinisse. Il y a peut-être même des rôles familiaux, parce que, tu sais, si on était très proche de sa belle-famille, ou si on n'était pas, tu sais, si ça prenait beaucoup de place, ou s'il y avait, peu importe, tu sais, la façon dont les ça se déroule. Puis les amis, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a toutes nos sphères relationnelles doivent être revues, puis notre relation avec nous-mêmes aussi, parce que là, justement, j'ai plus de place. T'sais, moi, je me connais-tu encore, ou je me suis perdue un peu, mais tu sais, ça, c'est un autre sujet, mais comme, est-ce que je me suis perdue un peu dans cette maternité-là, ou dans cette parentalité-là, où je me suis mise de côté, tu sais, puis là, il faut que je redécouvre, puis c'est inconfortable d'être tout seul avec soi-même pendant quelques jours de suite, là, à chaque semaine ou deux semaines, ou mois, pendant ce temps-là. Fait qu'au début, surtout du processus, fait qu'il y a tout ça, tu sais. Qui vient.
qui vient. Je trouve que ça semble, semble être lourd comme processus. Parce que là, on dit « Ah, il faut penser à ça, il faut penser à ça, il faut penser à ça. »
Ah, je le sais, c'est vrai, t'as raison, mais moi, je le vois comme... je trouve que c'est beau, je trouve que c'est une belle découverte. C'est comme une découverte.
Mais c'est ça. Oui. Ben, je voulais tellement que tu dises ça, Caro, parce que... c'est, mais c'est vrai, c'est ça, c'est que... Dans le fond, tout est une question de perspective. Tu sais, tout est une question de perception, de comment prendre cette opportunité-là, en fait, vraiment venir... oui, ça peut changer des choses en profondeur. Puis des fois, c'est juste des petites choses en surface, finalement, qu'il faut changer. Ouais. Fait que peut-être que ça peut aider de ne pas aborder... ou amorcer ce processus de réflexion-là ou de séparation en voyant ça comme une montagne.
Oui, parce que ça va venir étape par étape. Là, au bon moment, les choses vont se présenter.
Bien, c'est ça. Je voulais le démystifier un peu pour les gens qui écoutent, là, parce que ça ne vient pas tout d'un coup non plus. Puis ça ne veut pas dire, quand on parle d'une réflexion à avoir, ça ne veut pas dire que là, OK, on se prend 2 semaines puis on passe à travers la liste. Là,
non, c'est ça. Puis... Bien, puis justement, concrètement, cette liste-là, tu sais, on peut se dire que, tu sais, là, on parle beaucoup de réflexion, de se laisser de l'espace, de l'introspection qui vient avec ça ou de la redéfinition des rôles. Mais je pense que aussi, quand on pense à se séparer ou quand on a pris la décision puis qu'on ne l'a pas nommé encore, le stress, il est comme dans le concret, là. Il n'est pas tant que ça dans le, justement, comme on disait au début, dans le côté émotionnel, tu sais. Fait que là, concrètement, qu'est-ce que je fais, tu sais? Dans le fond, là, j'ai eu cette période de réflexion-là avec moi-même. J'ai pris ma décision. Après ça, c'est quoi la prochaine étape? Bien là, tu sais, il faut que je le nomme à mon conjoint, ma conjointe. Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait? Bien, il faut qu'on s'assoie ensemble puis qu'on regarde qu'est-ce qu'on a envie de faire. Est-ce que c'est possible maintenant pour nous que la séparation se fasse? Est-ce qu'on le dit maintenant aux enfants? Bien, pas que la séparation se fasse, mais que la séparation physique se fasse bientôt. Est-ce qu'on commence tout de suite, comme tu dis, si on est sur la même longueur d'onde, on commence peut-être rapidement un processus de médiation? Si c'est pas le cas, est-ce qu'on fait des essais-erreurs avant de notre côté, tu sais? C'est quoi les types de garde qu'on a envie d'approcher, un peu avec les horaires, comme tu disais, qui peuvent être atypiques, tout ça? Tu sais, il peut y avoir, est-ce qu'on reste dans la même ville? Est-ce que les écoles vont à la même place? Tu sais, ça, tu peux en parler plus que moi, mais comme je sais qu'il y a beaucoup de choses dans le concret qu'on peut regarder aussi qui peuvent nous enlever un stress, en fait. T'sais.
Oui, puis je veux démocratiser, en fait. Je ne sais pas si le terme approprié pour venir spécifier ce que je veux dire, mais dans le fond, tout est possible. T'sais. Il y a autant de solutions qu'il y a de familles. Donc, quand on en discute avec l'autre parent ou le conjoint, conjointe, ex-conjoint, conjointe, là, dans le fond, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, être indulgent et bienveillant l'un envers l'autre, puis nous envers nous-mêmes, en acceptant que parfois, il y a des situations qui sont peut-être appropriés pour nous, même si autour de nous, on nous dit « Ah, ça va être difficile, ça va être épouvantable. » Je te donne un exemple. En ce moment, là, dans les 2 dernières années qu'on vient de vivre de pandémie, là, c'est sûr que les déménagements, c'était beaucoup plus ardu. Le marché immobilier est tout autre. Mm-hmm. Fait que ça vient souvent plus difficile de se reloger. Dans le fond, là, il y a eu un temps, je pense il y a 2 ans, l'été, les déménagements, on questionnait même si c'était, tu sais, il y avait des mesures sanitaires pour les... Tu sais, on rendait les déménagements difficiles.
Encore plus difficiles qu'ils sont déjà,
oui,
c'est ça.
Oui, c'est ça, parce que là, tu sais, c'est-tu normal de déménager à ce temps-ci de l'année alors qu'il faut tout se protéger? Bien, il y a des moments... On n'a pas le choix, tu sais.
Ouais, c'est ça.
Dans le fond, là, ne pas justement comme prendre ça comme des jugements, puis tu sais, vraiment comme se donner la possibilité d'aller vers ce qu'on veut. Puis dans l'exemple que je veux te donner aussi, c'est dans le contexte actuel, j'ai vu beaucoup de familles qui restaient sur dans le domicile familial pendant un bon moment. Ils ont réaménagé les pièces pour faire en sorte qu'ils aient chacun, les parents, leur espace à eux. Puis, tu sais, ça peut faire une transition aux yeux des enfants, là, quand on parle pour les familles avec enfants, là, mais ça peut faire une transition peut-être même plus naturelle pour certains, oui. Parce que dans le fond, les enfants voient, tu sais, je pense aux enfants en plus bas âge, où ils n'ont eu qu'un seul modèle, bon, les parents dans la même chambre, ben tu sais, à 2-3 ans, quand ils réalisent que les parents ne sont plus dans la même chambre, OK, il y a des choses qu'ils peuvent percevoir. C'est sûr que c'est le concept de séparation à cet âge-là, c'est très flou, puis c'est pas... c'est pas nécessairement une chose à expliquer en long et en large, là, mais ça peut servir de transition. Fait qu'il y a plusieurs possibilités, alors que il y a pas si longtemps que ça, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Ouf, quand tu parlais aux gens de faire du nesting, là, comme ouais. ça, là, de rester dans la... que c'est les enfants qui demeurent dans la résidence familiale, puis que c'est les parents, en fait, qui partent, là, quand c'est la garde de l'autre, là. Mm-hmm. Donc, qui s'échangent comme ça, c'était super farfelu, là. Mm-hmm. C'était quelque chose qui était... mon Dieu, on était encore bien ben mystifiés là, par tout ça, alors que ça se voit de plus en plus.
Mais je pense les que gens... ça parle aussi des changements de mentalité de la société, tu sais, de se dire qu'avant, c'était très, à cause des connaissances qu'on avait à ce moment-là, très tourné vers l'adulte, puis que les besoins physiques de l'enfant devaient être répondus, mais que les besoins émotionnels étaient peut-être moins approchés.
Oui, il y a de ça, probablement.
Ouais, oui, puis là, maintenant, on essaie de faire, ben pas faire le contraire, mais de répondre aux besoins émotionnels et physiques, autant des parents que des enfants, tu sais, fait qu'on sont... Ouais.
Oui, mais c'est autre chose, mais c'est ça m'amène quand même. Pas nécessairement, mais c'est juste que, tu sais, je vais juste faire une petite mise en garde, c'est que de nos jours, il y a eu beaucoup de parents dont leur rôle s'est transformé en... Ben, en fait, c'est pas... Le rôle du parent est comme devenu un rôle de déculpabiliser, puis... ne plus nécessairement être l'éducateur, accompagnateur de l'enfant, mais plutôt on répond aux besoins de l'enfant d'abord et avant tout parce qu'on se sent coupable, ce qui créait comme beaucoup d'enfants rois dans les séparations. Puis c'était lourd à porter pour les deux parents, là, parce que l'enfant devenait quand même exigeant. Il se fait habituer à ça. Fait qu'il,
non, mais c'est ça. C'est pour ça que je dis aussi de répondre aux besoins physiques et émotionnels autant des parents que des enfants, tu sais.
Oui, bien c'est ça. C'est qu'il ne faut pas s'oublier dans son rôle de parent.
C'est ça, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est qu'avant, on était dans un extrême où c'était plus les besoins des adultes qui étaient pris en considération, puis on se disait que les enfants y allaient s'adapter. Puis
là, on a basculé.
Puis après, on a basculé complètement à l'opposé dans les besoins des enfants sont répondus, puis les adultes doivent s'adapter à ça. Puis là, je pense qu'on tend plus vers un équilibre entre les besoins de tous dans la famille, tu sais. Puis je pense que ça, c'est plus... que c'est plus sain, mais que c'est aussi plus pérenne dans le temps.
Oui. C'est ça. Ça peut être plus durable. Dans le fond, on pourrait parler de plein de choses.
Je sais, j'ai pris des notes pour plein de prochains épisodes. Je suis comme, ça fera un épisode au complet.
C'est vrai, parce que dans le fond, on pourrait parler plus en profondeur, justement, comme le déménagement immédiat ou pas. Qu'est-ce qui est là? C'est sûr que la distance entre les parents ou entre les partenaires, les ex-partenaires, c'est sûr que c'est aidant parce que ça fait retomber un peu la poussière, ça élimine des irritants, des frustrations.
Oui.
Mais en même temps, sur le plan économique, sur le plan...
c'est pas toujours possible, tu sais.
C'est pas toujours possible, c'est pas toujours facile de le faire, tu sais, pour maintenir un bon planning financier. Aussi, tu sais, il faut penser à nos habitudes, c'est parce que ça représente plein de nouvelles habitudes à prendre, là, de soit changer de quartier ou même si on est dans le même quartier, changer nos habitudes de parents monoparentales. Et ça peut... on n'a plus le même soutien. Ou tu sais, quelqu'un qui était habitué de ne pas avoir d'heure de rentrée pour le travail, qui avait juste besoin de se pointer pour le souper, ben c'est pas la même chose quand il faut aller chercher les enfants. Là, il faut changer ses habitudes. Là, c'est vrai, je peux plus rester au travail jusqu'à 6 heures. Il faut que je sois à la garderie ou à l'école avant 6 heures, justement. Fait qu'il y a beaucoup de
transitions.
Il y a des éléments comme ça, à ne pas négliger dans sa planification. Puis ça, c'est sûr que les discussions peuvent être entre les parents, c'est bien utile quand les discussions sont possibles. Oui. Parfois, c'est pas tout à fait possible encore. Mm-hmm. T'sais, d'où le fait qu'on dit, ben, peut-être qu'il y a un temps de répit, de le nommer entre les deux. T'sais, regarde, je pense que pour le prochain mois, ça sera pas l'idéal de discuter ou d'ouvrir cet élément-là, là, t'sais, d'aller vers... t'sais, si c'est au niveau financier que c'est compliqué, ben, on va régler les choses qui sont plus faciles pour nous. Puis on va laisser la réflexion financière quand on va être plus calme, tu sais, oui. Quand ça va être plus approprié. Mais en même temps, il faut être très conscient d'où l'autre est, d'où le fait que tu disais en début de discussion, tu sais, il faut avoir la bienveillance de voir où l'autre partenaire est rendu, où l'autre parent est dans sa réflexion pour faire en sorte de c'est pas être trop exigeant ou pas assez exigeant, puis là, mm-hmm. de laisser aller des choses, puis que finalement, il y a des plis qui se prennent, parce que ça, je le vois souvent en médiation, les gens viennent après un an de séparation, mais ils ont pris des plis pendant cette année-là. Ils ont entrepris d'avoir une façon de régler, admettons, leurs conflits dans une certaine flexibilité, pas trop encadrée, ça marche certaines fois, ça marche moins d'autres fois, mais là, ils ont fait avec ça. Puis après un bout de temps, il y a la demande d'un qui dit, ben moi, j'aimerais mieux qu'on détermine une heure très fixe ou très précise pour telle transition entre nous. Puis là, l'autre parent est tout offusqué, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est parce qu'il y a des plis qui ont été pris, puis il y a des façons de
Mais c'est aussi parce que peut-être, puis là peut-être que je me trompe, puis que je suis complètement dans le champ, puis tu me le dis si c'est le cas, mais ce que j'entends aussi là-dedans, c'est que tout dépendant si c'est notre décision ou pas, avec la culpabilité qui vient avec ça, on veut peut-être être facilitant pour l'autre parent ou pas le bousculer trop ou tout ça. Fait que là, on accepte des choses qui sont pas tout à fait alignées avec nous, puis à un moment donné, ça devient tellement irritant que là, il faut les adresser, tu sais, mais en même temps, on a notre part de responsabilité là-dedans parce que on a accepté ça, tu sais, puis on a... Fait que tu sais, il y a comme les deux... Ça. Mais tu sais, ce que j'entends beaucoup, puis là, comme tu dis, on pourrait partir sur plein de sujets, puis j'ai justement noté plein d'affaires, mais ce que j'entends beaucoup, moi, de qu'on discute depuis le début, puis qui me donne, tu sais, que je trouve beau, c'est que dans le fond, je le vois juste comme vraiment une opportunité de sortir de la boîte qu'on s'était construit, de ce que notre famille devait avoir l'air, puis de comment notre famille devait fonctionner. Puis là, on a l'opportunité de prendre des décisions sur tous les aspects ou presque de notre famille qui peuvent être plus alignés parce qu'ils vont être alignés aux deux parents. Tu sais, dans le fond, je le sais que ça peut pas être 100% moi ou 100% l'autre, mais quand même, c'est comme on ouvre une porte là, pour discuter de tout ce qui nous convenait pas, tu sais, sans rentrer dans les frustrations puis dans les acrimonies, mais juste de se dire comme, tu sais, ça c'est correct, on laisse ça dans le passé, ça a été fait comme ça, ça a été fait comme ça, mais là, à partir de maintenant, qu'est-ce que je veux? Toi, qu'est-ce que tu veux? Puis qu'est-ce qu'on pense qui est le mieux pour les enfants? C'était peut-être pas finalement de revenir de l'école à 6 heures justement à cause du travail. Peut-être qu'on peut faire ça de façon différente. Peut-être qu'il y en a... Tu sais, il y a tellement de choses qu'on peut aller explorer à partir de là. C'est ça que je trouve beau, tu sais. Moi, je le vois vraiment comme cette opportunité-là, en fait, tu sais.
Oui, ben je trouve que c'est une super belle conclusion, tu sais, de sortir de la boîte, de se le permettre, d'avoir un peu cette conscience-là, puis je le dis avec une terminologie peut-être qu'il va falloir définir avec d'autres épisodes, mais la maturité émotionnelle pour, tu sais, d'avoir cette maturité-là, de voir que c'est pas que moi, c'est pas que l'autre. On s'ajuste puis on va avec l'intérêt des enfants, mais il y a moyen de faire un beau compromis parce que souvent aussi quand les gens arrivent en médiation, quand on prononce le mot compromis, déjà qu'il y a un braquage.
Parce que les gens, ils ont l'impression qu'ils vont sortir perdants puis que l'autre va sortir gagnant. Forcément, si je fais un compromis, c'est que je perds quelque chose. Mais dans le fond, c'est pas ça du tout, là, oui.
Bien, puis c'est pour ça que de plus en plus, je tends vers puis c'est pas juste dans le vocabulaire, mais dans l'expression de tout ça, vers de la consensualité, là. Vraiment, comme d'arriver à pas juste avoir l'impression qu'on perd quelque chose ou qu'on va gagner quelque chose, mais vraiment, comme y a-t-il moyen d'avoir un consensus où on est on est heureux avec ce qu'on... Tu sais, on trouve un bien ou un confort dans tel genre de décision, mais je sais que d'un autre côté, ben je vais favoriser la décision là, en faveur de l'autre parent, puis arriver à une espèce d'équilibre.
Oui, parce qu'il y a des choses qui sont peut-être très importantes pour l'autre qui sont un peu moins importantes pour toi, puis de focuser tellement sur les points qui sont très importants pour toi, puis de laisser, tu sais, d'avoir un peu plus de flexibilité au niveau des points qui sont plus importants pour l'autre.
C'est super pertinent ce que tu dis là, parce que souvent les gens ne prennent pas la peine de le voir, ça. Oui. Puis c'est parce qu'on n'est pas, en tout cas, je ne veux pas parler de notre éducation collective, là, mais on n'est pas entraîné, tu sais, on n'est pas entraîné à ça. Oui. Oui, à voir que, dans le fond, moi, mon besoin, là, puis je te donne un exemple peut-être un petit peu plus concret, il y a un parent qui tient mordicus à avoir les enfants le plus souvent possible, donc que ce soit un temps parental très, très grand, mais que cette personne-là, elle tient peut-être pas tant que ça aux bénéfices financiers, alors que l'autre parent, lui, bien, sa préoccupation, c'est vraiment de pouvoir avoir toutes les allocations, puis, tu sais, dans le fond, notre besoin est peut-être pas à la même place, fait que le fait de simplement le voir puis d'accepter, bien, c'est beaucoup plus facile d'en venir à une décision parentale qui va combler les deux parents. Ouais. Alors que, parce que, admettons que la personne qui tient bien gros au niveau financier, bien, il peut être persécuté par ça, parce que l'autre personne va dire, bien là, c'est ça, c'est juste l'argent qui t'intéresse, puis alors que, attends, là, on va venir comprendre peut-être plus en profondeur le besoin.
Oui, c'est ça, parce que le besoin est peut-être le même des deux côtés, il s'exprime juste de façon différente, tu sais.
Il y a tout ça.
Je pense que tellement... En plus, j'ai envie de nommer aussi que, tu sais, c'est un peu dans cet ordre d'idée-là qu'on a créé notre accompagnement, toi puis moi, ensemble aussi, tu sais, de laisser des espaces entre chaque séance de médiation, une séance de coaching entre les deux coparents ensemble, pour être capable d'aller démystifier tout ça aussi. Qu'est-ce qui se cache vraiment en arrière de cette demande-là? Puis comme ça, ça fait que le processus de médiation, il est allégé parce que le côté émotionnel, il a déjà été adressé ou il est adressé, en fait, au fur et à mesure qu'il y a des petits trucs qui ressortent. Fait qu'on est capable d'aller prendre des décisions, oui, plus alignées, mais aussi ça se fait de façon plus détendue puis plus fluide et plus saine, je pense, tu sais, que d'être dans les frustrations tout le long puis d'être en bataille constante envers l'autre, tu sais, en fait.
Oui, oui, tout à fait. C'est une belle façon de vivre de façon plus consciente ce moment qui peut être très bénéfique dans une vie.
Oui, ô combien challengeant et en montagne russe, mais c'est un cadeau mal emballé, tu sais, quand on dirait qu'on commence le processus, on le voit pas, mais quand on est de l'autre côté de la traversée ou de l'autre côté de la montagne, on le voit que dans le fond, ça va bien aller, tu sais. Puis je pense que ça fait du bien quand on est au début de tout ça, de le savoir, que ça va bien aller, puis pas juste de se le faire dire par des gens qui l'ont pas vécu, mais en fait de se le faire dire par des gens qui l'ont vécu puis qui l'ont vécu de façon différente aussi. Fait que, je pense que ça aide, ça.
Oui, tout à fait. Donc, on pourra parler, parce que je veux amener les gens à nous suivre pour d'autres discussions, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas beaucoup abordé, mais qui est important dans le processus de séparation, là, souvent dans les premiers temps ou au début, c'est l'annonce aux enfants.
Oui, puis je pense qu'en fait, c'est un sujet qui mérite d'être approfondi, là. Fait que justement, l'épisode de la semaine prochaine va être là-dessus. De vraiment prendre le temps d'un peu décortiquer selon l'âge aussi des enfants, la façon dont on a envie de nommer les choses, tu sais, comme tout le contexte autour de ça, de démystifier parce que comme parent, je pense que, puis là, je parle pour moi, mais je suis sans doute pas la seule. Je pense que dans tout ça, dans tout ce processus de séparation-là, qu'est-ce qui fait le plus peur, c'est les impacts que ça peut avoir sur nos enfants. Fait que je pense que ça vaut la peine d'aller explorer ça plus en profondeur, là. Oui,
oui. Oui. Bien, puis sur notre entourage aussi, hein, à ne pas négliger. Donc, annonce aux enfants, mais annonce à notre entourage.
Aussi.
C'est dépendamment de nos familles, de nos cultures et tout ça, ça peut être un élément très important pour nous.
Oui, c'est vrai, t'as raison.
Cette façon de... Donc, on pourra en reparler.
Oui, bien, alors on se retrouve la semaine prochaine sur ce sujet-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis merci, Mylène, pour cette encore magnifique discussion.
Oui, merci, Caro. À bientôt.
À bientôt, bonne journée. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On espère de tout cœur que l'épisode a vibré avec toi. Si c'est le cas, on t'invite à laisser un avis 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcasts ou sur Spotify. C'est vraiment le moyen le plus efficace de faire voyager le message et de permettre à plus de gens de découvrir le podcast.
Et si tu penses que ça pourrait aider ou supporter quelqu'un que tu connais, partage-lui l'épisode. C'est tellement précieux de savoir qu'on n'est pas tout seul à vivre ce qu'on vit. On te souhaite une merveilleuse journée et on te dit à la semaine prochaine.